Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'histoire de l'IA est intimement liée au développement des réseaux de neurones censés reproduire aussi fidèlement que possible le fonctionnement des neurones biologiques. Depuis des questions d'ordre philosophique sur la naissance de la pensée dans nos cerveaux, aux outils d'apprentissage profond qui permirent le développement d'AlphaGo, l'évolution des réseaux de neurones incarne à elle seule les promesses et les impasses d'un Graal nommé intelligence artificielle. Science Chrono revient aujourd'hui sur l'histoire de ces réseaux de neurones qui sont le reflet technologique de questions philosophiques plus profondes et encore sans réponse. Bonjour Alban Le Vauvallier.
Bonjour.
Vous êtes chercheur postdoctorant en philosophie à l'université Paris 8 et chargé de cours à Sciences Po Paris. Vous avez écrit en 2023 aux éditions Champvallon, le livre IA, l'intuition et la création à l'épreuve des algorithmes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur cette histoire d'une technologie devenue centrale dans la recherche et dans nos vies et qui fait écho à des questions qui tiennent en haleine les philosophes depuis l'Antiquité. Pour plonger tout de suite dans notre discussion, je vous propose d'écouter notre archive du jour. On écoute la voix de l'une des figures clés dans l'histoire de la cybernétique et par extension des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Warren McCulloch, le psychologue, neurophysiologiste, mathématicien américain, répondait en 1969 aux questions de la télévision canadienne sur la possibilité ou non de fabriquer un jour une machine qui égale les facultés de pensée d'un cerveau humain.
Computing machines think with a language which is number.
Les machines informatiques pensent avec un langage qui est celui des nombres. Nous transformons tout en chiffres pour les faire fonctionner. Elles sont nulles en matière de perception. Elles n'ont pas de langage naturel sous-jacent comme nous ou les animaux. Lorsqu'on veut les faire développer un modèle de monde autour d'elles-mêmes, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon dispositif. Vous voulez qu'elles jouent aux échecs ? Très bien. Notre programme de jeu d'échecs au MIT est déjà un joueur d'échecs de deuxième rang. Dans un an, je pense qu'il sera de premier rang. Ce ne sera pas un maître au bout d'un an, mais dans 6 ans environ. Dans 6 ans, il deviendra une technologie de premier rang qu'aucun être humain ne pourra surpasser. Je souhaite que ça aille plus loin, et ça ira plus loin, parce que nous pouvons réduire ces choses-là à des nombres.
Voilà, Alban Le Vauvallier, la voix de Warren McCulloch. Cette vidéo, elle est très impressionnante parce que c'est un personnage qui a un visage marquant, un regard très très illuminé. En 1969, c'est l'année juste de son décès. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette figure et nous décrire le cœur de sa réflexion scientifique?
Oui, Warren McCulloch, c'est un neurophysiologiste qui, en fait, s'est dirigé vers cette discipline parce qu'il avait un intérêt philosophique. C'est quelqu'un qui est motivé par une question très philosophique, qui est celle de savoir, comme il le disait lui-même, de comprendre comment est-ce qu'on comprend. 1969, effectivement, c'est la fin de sa carrière. C'est l'année où il va décéder. Et c'est l'année où décède également Walter Pitts, qui est un peu la grande figure, le deuxième personnage avec qui il a fait un certain nombre de travaux, et en particulier le plus important, qui est l'article de 1943, qui est considéré comme le coup d'envoi du projet d'intelligence artificielle, un des coups d'envoi, il y en a d'autres, et un des premiers modèles, on dit computationnaliste de l'esprit, qui essaye d'expliquer comment est-ce que pourrait fonctionner l'esprit comme si c'était un ordinateur, même si à l'époque les ordinateurs n'existent pas, mais en tout cas d'essayer de résoudre le problème de ce qu'on appelle le dualisme corps-esprit en décrivant comment est-ce que les neurones pourraient fonctionner, donc de décrire un fonctionnement des neurones qui expliquerait comment est-ce que les idées se développent dans notre tête.
Walter Pitts, vous le mentionnez, donc c'est un petit génie des mathématiques. Son histoire est très très romanesque. J'invite les personnes qui nous écoutent à aller se renseigner sur ce personnage qui a débarqué aux États-Unis un peu.
Alors, il naît aux États-Unis, mais qui a débarqué. Il naît à Détroit. C'est le fils d'un chaudronnier de Détroit, donc c'est quelqu'un d'origine assez modeste, dont la légende raconte qu'il avait pris l'habitude de se réfugier dans la bibliothèque municipale pour échapper à son père qui était peut-être un peu violent et à ses camarades qui apparemment le martyrisaient. Et en fait, dans cette bibliothèque, il aurait appris tout seul toutes sortes de langues, le grec, le latin, de disciplines, la biologie, les mathématiques. Et il serait tombé un jour sur un gros livre en 3 volumes qui a été très important dans l'histoire de la pensée au XXe siècle, qui s'appelle les Principia Mathematica, qui est une sorte de somme logico-mathématique écrite par Russell et Whitehead. Et donc, il l'aurait lu en entier. Il est probablement une des seules personnes au monde à l'avoir lu en entier. Et il aurait trouvé des erreurs. Il aurait écrit à Russell en Angleterre pour lui faire part de ce qu'il avait trouvé. Et Russell, donc, non seulement ravi que quelqu'un ait lu le livre, mais qu'en plus ait trouvé des erreurs et interagisse avec lui, il aurait répondu et l'aurait invité immédiatement à venir travailler avec lui à Cambridge. Sauf qu'à l'époque, Walter Pitts, d'après la légende, n'avait que 12 ans. Et donc, et c'est le fils d'un chaudronnier de Détroit. Donc, il ne peut pas tellement se rendre à Cambridge pour aller travailler avec Russell. Il reste à Détroit, mais 3 ans plus tard, Russell va venir à Chicago donner une série de conférences. Et Pitts va s'échapper de chez lui. Donc, il s'enfuit à 15 ans. Il fugue et il devient un sans-abri à Chicago qui traîne autour de l'université. Il va assister aux conférences de Russell. Il va assister à des cours. Lui aussi, c'est quelqu'un qui est intéressé par la pensée. Comment est-ce qu'on explique la pensée? Donc, il va se retrouver dans des cours de neurophysiologie. C'est que c'est un petit prodige qui est un petit génie des mathématiques et qui va commencer à travailler sur des modèles mathématiques pour essayer d'expliquer le fonctionnement du cerveau avec quelqu'un qui s'appelle Rachevski. Il va rencontrer un étudiant qui va lui présenter donc à Warren McCulloch. Et Warren McCulloch, ça fait déjà un moment qu'en fait il travaille sur cette question de, comme je disais, comprendre comment on comprend, d'expliquer un peu le fonctionnement du cerveau. Et il a aussi lu les Principia Mathematica. Et il voudrait essayer d'expliquer comment est-ce que le cerveau fait de la logique, pour le dire un peu rapidement. Et il est un peu coincé sur certains aspects mathématiques. Et en fait, il va trouver en Pitts la personne qui va l'aider à arriver au modèle qu'il avait en tête. Et donc, ils vont sortir ensemble cet article de 43.
L'article qui s'intitule « Un calcul logique des idées immanentes dans l'activité nerveuse ». Donc, c'est le tout premier qui met en évidence finalement le premier modèle mathématique et informatique du neurone biologique et qui va servir de socle finalement dans cette histoire des tout premiers réseaux de neurones au développement technologique de ces neurones artificiels qui vont arriver...
En fait, il y avait déjà des modèles mathématiques des neurones, mais qui étaient plutôt des modèles continus. Là, ils vont s'arrêter sur l'idée que les neurones discrets, font des opérations discrètes, qui vont envoyer un signal ou ne pas envoyer un signal, et qu'on peut les décrire comme étant en réseau, et chaque neurone va envoyer un signal en fonction des signaux qu'il aura reçus d'autres neurones. Et que ça, en fait, ils vont faire une analogie très importante, qui est de dire, ça, en fait, ça ressemble à des opérations logiques, à un assemblage de portes logiques, où on a une proposition qui a une valeur de vérité, elle est vraie ou fausse, donc c'est binaire. Et si une proposition est vraie ou fausse, si deux propositions sont vraies ou fausses, ça peut déclencher le fait qu'une troisième proposition soit vraie ou fausse. Donc on a un agencement comme ça de propositions logiques, d'où le titre de dire on a un calcul logique. Alors c'est un titre qui vient avec des wagons de présupposés qui seront évidemment tous démentis au fur et à mesure, mais voilà, un calcul logique des idées immanentes au système nerveux. Donc c'est-à-dire, voilà, on peut lire le système nerveux comme si c'était une élaboration de propositions logiques. Alors, ils ont en tête, tous les deux, à l'époque, la machine de Turing présentée en 1936. Et leur idée, ce qu'ils veulent montrer, c'est de dire notre cerveau est une forme de machine de Turing qui calcule comme l'a décrit Turing. Donc, c'est un article qui vient avec ces immenses présupposés et qui est chargé de philosophie. Ils font des remarques, au passage, qui sont assez étonnantes. Par exemple, ils vont dire... Si une personne connaissait son propre réseau de neurones, il serait capable, donc c'est une sorte de pic envers Kant, il dit si une personne connaissait son propre réseau de neurones, la manière dont il est agencé, il serait capable de connaître la chose en soi, la chose directe. Parce qu'en fait, il serait capable de percevoir comment est-ce qu'il la perçoit et du coup d'accéder directement à la chose en soi.
Et c'est en ça que cette histoire de l'intelligence artificielle des réseaux de neurones est passionnante, parce qu'elle renvoie à des questions philosophiques éternelles d'une certaine façon. Cette histoire-là, elle est composée de beaucoup de figures, on n'aura pas le temps de toutes les présenter. On peut partir de McCulloch et Pitts pour sauter 10 ans, arriver à une autre figure. Alors en 1956, on dit que généralement, il y a une conférence à Dartmouth qui marque le début vraiment de l'intelligence artificielle. On y croise déjà une figure qu'on retrouvera tout à l'heure, celle de Marvin Minsky et celle aussi de son acolyte John McCarthy. Mais parlons tout de suite de celui qui va essayer de donner une formalisation technologique à ces idées de McCulloch et Pitts, qui est Frank Rosenblatt. Qu'est-ce qu'il essaye de prouver, lui, et de développer techniquement?
En fait, dans la foulée du coup de l'article de McCulloch et Pitts, il va avoir une certaine postérité. Il va influencer notamment Von Neumann, qui va reprendre un peu les diagrammes logiques dans sa manière de concevoir l'architecture des premiers ordinateurs, il va inspirer certains étudiants et certains chercheurs qui vont dire, bah tiens, ce modèle de l'esprit à partir de portes logiques, on pourrait le matérialiser avec les composants des premiers ordinateurs qu'on a. Et donc, un des premiers, ça va être d'ailleurs Marvin Minsky dans les années 50, qui va essayer du coup de construire une sorte d'équivalent de cerveau et se rendre compte assez vite que ben, c'est très compliqué, il ne sait pas très bien comment agencer cet ensemble. Et puis surtout, on a des millions et des millions de neurones, et là, il lutte avec seulement quelques-uns. Donc Minsky va abandonner assez rapidement, même s'il va travailler dessus. Et une figure assez importante de ses descendants, ça va être donc Frank Rosenblatt, qui est un psychologue. Et lui, qui s'intéresse, alors il est moins logicien que McCulloch et Pitts. Pour lui, les neurones ne sont pas en train de faire de la logique, mais il va reprendre effectivement l'idée de réseau de neurones et l'idée de matérialiser un réseau de neurones pour voir si on peut effectivement reconstruire un embryon. Il faut utiliser le terme d'embryon, une sorte d'embryon de cerveau mécanique, et il va appeler ça donc le perceptron.
Perceptron, voilà, un terme qui fleure bon ces années 50 et sa science-fiction un peu désuète. Concrètement, ça ressemble à quoi un perceptron et comment ils étudient son fonctionnement ?
Alors, au début, il le fait sur des machines de l'époque, des IBM, puis il va faire une machine dédiée, le Mark 1, où donc c'est une rangée de capteurs qui vont se déclencher en fonction d'images qu'on leur présente, qui regardent en fait les pixels de l'image et qui se déclenchent en fonction de est-ce que le pixel est noir ou pas, et qui vont envoyer cette information à une couche de traitement, donc qu'ils appellent une couche de neurones. L'analogie va continuer, elle continue. Ensuite, et par un processus dans lequel on ne va pas détailler, ensuite ça va arriver à reconnaître quelles sont les formes. Donc
c'est les prémices de la reconnaissance
voilà.
Visuelle.
Ouais. Voilà, c'est une machine qui est capable de reconnaître des formes élémentaires. Ce qui va intéresser, donc on est après la Seconde Guerre mondiale, où s'est constitué ce complexe entre les universités, les entreprises et l'armée qui finance ses recherches et qui va recycler un peu ce système qui s'est constitué pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout autour de la fabrication de la bombe atomique et qui a donné lieu du coup à l'ordinateur et qui va se recycler à la faveur de la guerre froide. Donc là, un dispositif de reconnaissance de forme comme celui-là, ils veulent l'appliquer à reconnaître des caractères, c'est-à-dire des chiffres et des lettres, mais ils se disent aussi on pourrait l'utiliser pour analyser les images de reconnaissance aérienne. Donc Rosenblatt est financé par exemple par la Office of Naval Reserve. Donc c'est la marine américaine.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une histoire qu'on connaît forcément très bien, celle du perceptron, à moins de s'y intéresser et de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Mais il faut bien souligner qu'à l'époque, ça suscite un enthousiasme totalement délirant aux États-Unis. Le New York Times fait une quantité folle d'articles, promet finalement une machine qui sera capable bientôt de tout reconnaître, de penser, de se reproduire, de marcher. Voilà,
et même on est encore dans la science-fiction de l'époque, il va y avoir des déclarations comme quoi le perceptron sera bientôt capable d'aller faire de l'exploration spatiale et d'explorer les planètes pour les humains. Oui.
Même le magazine Science parle du perceptron et dit qu'il sera capable d'apprendre, de prendre des décisions et de traduire des langues.
Oui.
Finalement, on n'est pas si éloigné que ça de ce que sont en train de devenir les outils d'intelligence artificielle. Mais cette histoire du perceptron, elle est doublement intéressante parce que elle incarne aussi les espoirs et les désillusions liées à l'intelligence artificielle. Alors, il va se passer une dizaine d'années entre ce moment un peu de grâce du perceptron et la chute du roi perceptron. Qui va provoquer cette chute et pourquoi ça va provoquer, d'une certaine façon, le premier hiver de l'intelligence artificielle?
Cet enthousiasme va agacer, en fait, certains des collègues de Rosenblatt, notamment le Marvin Minsky, qu'on a déjà mentionné, qui avait travaillé sur le sujet et qui s'en était détourné. Et qui pense, il n'est pas le seul, que essayer d'imiter le cerveau est une voie trop compliquée, qu'on a trop de neurones, et que cette manière empiriste, on va dire, de fonctionner en partant de la perception pour aller vers la pensée n'est pas la bonne, et qu'il faut plutôt avoir une voie, pour le dire à gros sabots, plutôt rationaliste, où on va chercher à partir plutôt des idées, du raisonnement tel qu'on le conçoit, et donc d'essayer plutôt d'appliquer le raisonnement en utilisant des langages de programmation, il va faire des machines dans lesquelles il essaye d'encoder la notion d'analogie, il va faire des micro-mondes, enfin bref, donc il a une autre direction de recherche.
En fait,
une autre
ce qu'il veut faire, c'est pas créer une intelligence artificielle sur le modèle des neurones humains, mais sur le modèle des ordinateurs. Donc, il veut, d'une certaine façon, rematérialiser cette intelligence artificielle.
Et voilà. Et partir du raisonnement, il est agacé peut-être aussi par le succès de Rosenblatt, par ses déclarations un peu exagérées, même si lui-même est pas, et ses collègues sont pas avares de leurs propres déclarations et leurs propres exagérations vis-à-vis de leur machine. Il est probablement donc agacé par ce succès. Il est aussi en compétition sur les mêmes fonds. Ces labos vont plutôt avoir des financements de ce qui va devenir l'ARPA assez rapidement. Et,
le département de la recherche militaire,
de l'armée américaine.
Ouais, de l'armée américaine.
Et donc, il va être un des premiers et un détracteur des perceptrons, dire que c'est pas la bonne direction de recherche, et il va en fait travailler à formaliser en fait sa critique des perceptrons, à la formaliser de plus en plus, et il va s'adjoindre l'aide de quelqu'un qui s'appelle Seymour Papert, avec qui il publie donc au fur et à mesure les articles, se mettent ensemble, ils font circuler un peu des papiers parmi leurs collègues pour dire voilà pourquoi on pense que les perceptrons sont voués à l'échec, sont pas une bonne direction de recherche, et ça va donner lieu à un livre en 1969. Qui est vraiment une analyse...
Qui s'appelle Perceptron, au pluriel.
Perceptron, qui est une analyse très, très détaillée, avec tout un formalisme mathématique, pour dire, voilà ce que c'est que le perceptron. Ils font vraiment l'effort de revenir point par point, voilà ce que c'est que le perceptron, et voilà ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Alors, les gens qui font des réseaux de neurones à l'époque vont dire, oui, la version que vous en avez présentée est simplifiée, on peut la faire différemment, on pourrait rajouter des couches. On connaît les limites que vous mentionnez. Frank Rosenblatt lui-même avait listé toutes les limites,
15 points,
points sur lesquels il voulait continuer à faire ses recherches, justement pour avoir des financements, pour pouvoir poursuivre ses recherches. Mais en fait, le travail est si rigoureux, si conséquent, que c'est comme s'il donnait
un coup d'arrêt.
Ça va être considéré comme un peu le mot définitif, le résultat définitif. Autant le perceptron avait été surévalué dans ce qu'il pouvait faire, autant à partir de ce livre, il est surévalué dans ce qu'il ne peut pas faire. Il avait été surévalué dans ses capacités, là il est surévalué dans son incapacité. Le secteur, alors pas tous, parce qu'il y en a qui continuent à travailler sur les réseaux de neurones, mais le secteur en général, et leurs financeurs surtout, vont considérer que c'est pas une bonne direction, que Minsky et Papert ont montré que, en tout cas il y a un consensus autour du fait qu'ils auraient montré que les perceptrons ont des limites théoriques précises sur lesquelles on ne peut pas rentrer, mais que elles existent et que du coup c'est pas une bonne manière de poursuivre.
Il y a un autre coup d'arrêt qui est en tout cas un autre coup qui est porté à cette approche du perceptron et de ce développement des réseaux de neurones en 1973 en Angleterre avec un rapport baptisé rapport dit de Light Hill qui refroidit à nouveau les ardeurs, qui dit la plupart des travailleurs de la recherche sur l'intelligence artificielle et des domaines connexes confessent un sentiment prononcé de déception face à ce qui a été réalisé au cours des 25 dernières années. Dans aucune partie du champ, les découvertes faites jusqu'à présent n'ont produit l'impact majeur qui était promis. Ce qu'il faut dire aussi, Alban Le Vauvallier, c'est que dans cette histoire des réseaux de neurones en creux, il y a bien sûr une histoire scientifique, une histoire de la méthode scientifique, une histoire de comment on établit un argument et une preuve. Ça, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment, pourquoi c'est important de rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas décorrélée de cette approche et des limites de la méthode scientifique.
Ce qui va motiver la plupart des personnages de cette histoire, c'est qu'ils cherchent à savoir comment on sait, ils cherchent à comprendre les mystères de l'intelligence, si on veut, et à proposer une autre manière de faire de la recherche scientifique et de dire, pour comprendre un phénomène, le meilleur moyen serait de le reconstruire. C'est-à-dire, on ne comprend bien que ce qu'on a fabriqué soi-même. C'est une phrase qui est attribuée plus tard à Richard Feynman et qui vient en fait de Vico, peu importe, mais en tout cas, ça va être une sorte de leitmotiv qu'on retrouve un peu tout au long de l'histoire de l'IA et en particulier la dernière génération. Et donc, l'idée, c'est refabriquons l'intelligence, entre guillemets, et comme ça, on comprendra ce que c'est. C'est vrai que l'objectif, il est vraiment de connaissance. Même si derrière, ce sont des machines qui vont après avoir des usages, l'objectif, c'est un objectif de connaissance. Sauf qu'une fois que la machine est fabriquée, on ne sait pas très bien, en fait. C'est-à-dire que le perceptron Rosenblatt, il perçoit un petit peu, il est quand même... Il n'est pas inutile. En fait, il fonctionne sur des lettres, à condition qu'on ne change pas trop la police, etc. Mais il fonctionne un petit peu. C'est un bon point de départ, comme la suite de l'histoire le montrera. Mais il y a une certaine flexibilité interprétative par rapport à ce résultat scientifique, en fait, de savoir est-ce que c'est un bon modèle de la perception ou pas. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose que ce que chez nous on appelle la perception. En fait, Il pensait répondre définitivement à la question, aux questions qui se posent autour de l'intelligence en fabriquant des machines qui ressemblent. Sauf qu'au lieu de répondre définitivement à la question, ils ouvrent d'autres questions. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore vraiment ce que c'est que la perception ou l'intelligence chez nous. Mais en plus, maintenant, on a ces machines devant nous qu'il est très difficile de juger. Puisqu'on voit qu'il y a, toujours une sorte de décalage dans un sens ou dans l'autre. Soit on les surinterprète, soit on les sous-interprète. On dit qu'elles sont trop capables ou pas assez capables.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de l'intelligence artificielle, de cette première intelligence artificielle, c'est qu'elle traduit des débats philosophiques plus anciens, des controverses entre approches rationalistes, approches empiristes, qui vont se traduire directement dans ces développements technologiques. Alors, si je dois résumer à la hache, l'approche rationaliste, c'est de dire que la connaissance est un fait d'une certaine façon inné, tandis que l'approche empiriste, c'est l'expérience qui va provoquer la naissance de la connaissance et donc de la pensée. Et donc, c'est l'acquis qui va prévaloir. Si on doit faire un parallèle, donc, empirisme, c'est l'école connexionniste, et rationaliste, c'est l'école symbolique, celle de Minsky, celle qui a triomphé à la fin des années 60. Cette école connexionniste, elle disparaît pas. Il y a toujours des chercheurs qui continuent de vouloir suivre les pas de Rosenblatt et développer des réseaux de neurones comme le perceptron. Est-ce que vous pouvez nous dire comment survit cette braise, cette flamme connexionniste dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80?
Le début des années 70, comme vous l'avez mentionné, c'est une période où il y a une forme de bilan qui se fait, où voilà, les financeurs et le grand public, la presse, disent voilà, ça fait des années qu'on nous parle de machines intelligentes, de machines qui vont percevoir, qui vont traduire, vous voulez traduire des machines qui traduisent du russe, etc. Et ben, elles sont manifestement pas là. C'est une période qu'on appelle un hiver de l'IA, où les financements sont très réduits, et effectivement, l'école qui reste un peu, c'est l'école symbolique, et il y a une sorte de consensus sur le fait que l'école connexionniste a perdu, et que c'est pas une bonne direction de recherche. Mais, comme vous le disiez, en fait, ça va continuer. Les réseaux de neurones n'étaient pas totalement inutiles, ils arrivaient à faire des choses, ils arrivaient quand même à reconnaître des formes basiques. Ils vont continuer à intéresser certains neuroscientifiques, qui vont se dire, tiens, on continue à essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau, certains physiciens pour des raisons qui leur sont propres. Et il y a beaucoup de personnages dans cette galerie.
Il nous reste 2 minutes. Mais
on va s'arrêter sur un seul qui est Geoffrey Hinton, qui est un Anglais qui, en fait, un peu comme McCulloch, est intéressé par comprendre comment on comprend, savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, et qui va errer un peu, en fait, dans différentes disciplines, en psychologie, en philosophie. Il va même devenir charpentier pendant un moment. Avant de se retrouver à faire de l'intelligence artificielle, alors que dans son labo, personne ne croit à... Enfin, on ne veut plus parler d'IA, et surtout, on ne veut plus parler de réseaux de neurones. Et lui, en fait,
c'est un sujet tabou. Reste... On ne finance plus les recherches qui parlent d'intelligence artificielle.
Exactement. Et lui continue à penser que... lui pense que c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne en poursuivant cette direction que sont les réseaux de neurones. Donc, il va faire sa thèse là-dessus. Et en une phrase, du coup, il va un peu... pas tout seul, mais il va rencontrer en fait d'autres personnes qui ont continué à s'y intéresser. Donc, comme vous le disiez, des neuroscientifiques, des physiciens. Ils vont recréer un groupe, une sorte de groupe underground, des gens qui portent quand même un peu la flamme des réseaux de neurones. Et très lentement, à partir des années 80 jusqu'aux années 2010, en fait, vont travailler à améliorer leur modèle, trouver en fait un moyen de contourner les limites qui avaient été décrites par Minsky et Papert en 69, de
dire ils développent des algorithmes de rétropropagation.
Voilà.
Donc ça c'est tout un voilà, ces algorithmes là qui vont ensuite permettre l'avènement du deep learning comme on l'appelle.
Ils trouvent le moyen de permettre au perceptron qui n'avait qu'une seule couche d'avoir beaucoup plus de couches et de quand même être entraîné de pouvoir se calibrer sur des grands volumes de données. Et il se trouve que en fait, il va y avoir plusieurs choses qui vont les aider. Le fait que dans les années 2000-2010, il va y avoir un déluge de données, c'est l'ère des big data, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, et donc de grandes bases de données sur lesquelles ils peuvent entraîner leurs algorithmes. Et puis, pour les entraîner, il faut une puissance de calcul conséquente. Il se trouve que, en fait, un des étudiants de Hinton, qui s'appelle Krzyzewski, mais il y a d'autres étudiants qui sont aussi des gamers, des gens qui jouent aux jeux vidéo, et qui se rendent compte que dans ce domaine des jeux vidéo, il y a un progrès dans les calculateurs, dans les cartes graphiques, et qu'en fait, c'est des calculateurs en parallèle qui se trouvent sont adaptés, en fait.
Plus souples, ouais.
Voilà, sont intéressants pour entraîner les réseaux de neurones qui font aussi massivement des calculs en parallèle. Et donc, la légende raconte que Hinton, avec cet étudiant Krzyzewski et un autre Sutzgever, qui deviendra important ensuite chez OpenAI, décident de participer ensemble à une compétition de reconnaissance d'images en 2012. Et Krzyzewski dit, on pourrait entraîner du coup notre réseau de neurones sur ces cartes graphiques. Et je vois que, il dit à Hinton, je vois que notre taux d'erreur baisse de semaine en semaine. J'arrive à améliorer. Alors que ça faisait des années qu'en fait, dans la communauté de vision artificielle qui allait sur cette compétition, les taux d'erreur étaient un peu stagnants. Et Hinton aurait dit à Krzyzewski, il devait rendre un devoir à Hinton qui était son prof, et il était en retard. Et Hinton lui dit, chaque point que tu gagnes, je te donne une semaine de plus pour rendre ton devoir. Et Krzyzewski, une semaine, un point, une semaine, un point, une semaine, un point. Et alors que les taux d'erreur étaient, je ne sais plus, je crois que c'est 24%, ils arrivent à le faire s'effondrer à peut-être 15%. Et ils arrivent à cette compétition de vision artificielle en 2012, ça fait des années du coup qu'en fait il y a la communauté s'est reconstituée, la communauté des chercheurs autour des réseaux de neurones, que les concepts sont là, que les résultats pratiques sont là aussi. Il y a des gens qui l'utilisent en fait pour des embryons de voitures autonomes déjà depuis la fin des années 80, pour de la reconnaissance d'images dans les années 90, mais que la communauté des informaticiens considère que c'est pas une bonne direction de recherche. Et là, ils sont obligés d'admettre devant le résultat fracassant en 2012 à cette compétition de vision artificielle que en fait ça marche. Ça marche très très bien. Et ça va ouvrir du coup tout le chapitre derrière
des réseaux de neurones. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en cherchant à savoir comment pense le cerveau humain, on a fait évoluer la pensée humaine grâce à ces outils d'IA, mais sans avoir forcément percé le mystère de la pensée elle-même. Merci beaucoup Alban Levaux-Vallier de nous avoir guidés aujourd'hui dans ce labyrinthe philosophico-informatique de ces tout premiers réseaux de neurones. On refera peut-être une émission pour détailler la suite. Je rappelle le titre de votre livre, IA, l'intuition et la création à l'épreuve des algorithmes. C'est paru chez Champvallon. Merci encore. Think par Curtis Mayfield pour conclure cet épisode de Science Chrono. Un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Anthony Thomasson, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.